Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Le début de l'automne et cette dernière semaine de septembre marquent le grand redémarrage de plusieurs saisons musicales et une période d'intense activité pour l'actualité classique. Du 24 septembre au 8 octobre, 9 représentations du Nabucco de Verdi sont données à l'Opéra National du Capitole. Samedi 28 septembre, le premier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole a lieu à la Halle aux Grains, dirigé par Tarmo Peltokoski. Concernant ces deux événements, je dois cependant vous informer que toutes les représentations et le concert affichent hélas d'ores et déjà complets. Sur le front des festivals, Piano Jacobin se poursuit à Toulouse jusqu'au 30 septembre. Juste après, Toulouse des Orgues prend le relais du 2 au 13 octobre. Entre-temps, à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne, se tient la 10e édition du beau festival Passion Baroque, du 27 septembre au 6 octobre. Pour vous présenter cette édition spéciale 10e anniversaire, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois à Mélomanie Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban, et fondateur et directeur artistique de Passions Baroque. À ses côtés, toujours fidèle au poste, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est avec Serge que nous allons maintenant nous replonger dans l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Jean-Marc, ravi bonjour, de bonjour. Vous retrouver dans bonjour, cette bonjour. Émission. Nous allons d'abord revenir sur un concert de piano jacobin qui a eu lieu vendredi dernier au cloître, celui du jeune pianiste Anton Mérias. Il a joué un programme constitué du seul livre 2 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Ce concert a duré près de 2 heures. Très impressionnante performance de ce jeune musicien finno-cubain, âgé à peine de 23 ans, mais qui a montré une grande maîtrise et une étonnante maturité. C'était aussi beau que virtuose ce qu'il a fait ce soir-là, Serge.
Ah, absolument. Il faudrait peut-être rappeler qu'il était déjà venu une fois au Théâtre du Capitole, et il était venu de manière pratiquement impromptue pour accompagner le grand baryton Matthias Goerner dans une exécution mémorable du Voyage d'hiver, le Winterreise, qui n'est pas n'importe quoi. Il avait été très remarqué à cette occasion. Mais c'était sa première venue à piano jacobin, évidemment. Alors, il a une histoire particulière, sur laquelle je ne vais pas revenir, mais en tout cas, il a fait des débuts tout de même aux États-Unis, alors c'est amusant, avec le Los Angeles Philharmonie au Hollywood Bowl, sous la direction de Tarmo Peltokoski.
Oui, enfin, c'est pas si étonnant que ça, puisqu'il est, je dis finno-cubain, il est finlandais, en fait.
Oui,
il
finlandais, alors.
Et
oui,
je
oui.
pense que c'est un camarade de promotion de Tarmo Peltokoski.
Ils ont pratiquement
au conservatoire
le même âge.
Ils ont le même âge un an près, et ils sont pianistes tous les deux.
Oui, oui.
Donc,
voilà.
Je pense qu'ils se connaissent depuis longtemps.
Non, ils se connaissent. Donc, peut-être le reverra-t-on à Toulouse.
C'est probable.
Dans le cadre des concerts de l'Orchestre National du Capitole. Enfin, là, il s'est consacré à ce livre 2 du Wohltemperierte Klavier, donc le clavier bien tempéré, dont à l'âge de 10 ans, il avait déjà joué le livre 1. Il y a donc
apparemment Bach et lui, c'est une vieille histoire.
Oui, un background très favorable. Et donc, il a joué là, les 24 préludes et fugues donc, de ce livre 2, vraiment avec, alors à la fois, une technique parfaite, hein, une science incroyable et une musicalité remarquable. Et signalons qu'il a joué tout ceci sans partition.
Ah oui.
2 heures de musique sans partition, quand même d'une musique complexe, il faut le dire. Hein. Donc vraiment,
il y en a des notes.
Bravo. Et il a su enchaîner les pièces de manière subtile. Il prenait chaque fois la dualité prélude fugue de manière très intelligente, très bien faite. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que la lisibilité était exemplaire. Et ça, c'est important. Il faut suivre les voies, hein, évidemment. Là, c'était le cas. Et donc, avec ce caractère spécifique qu'il a donné à chaque épisode, avec cette alternance de sérénité et de vivacité que l'on a dans ces pièces, hein, ça varie énormément, tout le temps, à tout instant. Et il a eu un très grand succès. Il a été rappelé, mais évidemment, il n'a pas joué de
ça
bis.
Ça n'a pas eu de sens.
On n'a pas joué de bis après une œuvre pareille. Ça n'a pas empêché le public de l'applaudir vraiment de manière prolongée. Donc,
il l'avait déjà été au moment de la petite pause qu'il a faite.
Déjà
pas loin d'une heure de concert, je crois.
Après les 12 premiers,
55
donc,
minutes.
Au milieu, il avait fait...
Voilà, et à l'arrivée, en temps effectif, oui, il y avait eu au moins 1h50, 1h55, je pense, de concert.
Ah oui, pratiquement 2 heures de musique. Hein. Oui, oui,
c'est aussi une performance physique,
ah
on
oui,
pourrait
belle
dire.
Belle performance, hein. Oui, oui. Très très bien.
Mais je pense en effet qu'on le reverra non seulement aux Jacobins, mais probablement avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski. Je n'ai pas d'enregistrement d'Anton Mercheas jouant du Bach pour vous faire découvrir sa sonorité et son jeu, mais j'en ai un où on l'entend jouer du Chopin, ce jeune pianiste plus que prometteur. Je vous propose de l'écouter dans une interprétation de la ballade numéro 4, opus 52. La ballade numéro 4, opus 52 de Frédéric Chopin, jouée par Anton Mercheas, un jeune pianiste qu'on aura beaucoup de plaisir à réentendre à Toulouse. On quitte le piano pour le quatuor à cordes avec le concert qui ouvrait la saison 24-25 des Clés de Saint-Pierre, ce lundi 23 septembre à la Chapelle des Carmélites, un nouveau lieu pour la saison de musique de chambre que proposent les musiciens de l'Orchestre National du Capitole depuis près de 25 ans tout de même. Nous vous avions annoncé ce concert la semaine dernière, lors de la venue du violoncelliste Benoît Chapeau à Mélomanie. Benoît était l'un des membres du quatuor de musiciens qui se produisait au Carmélite ce soir-là. Serge va nous rappeler qui étaient les trois autres et quel programme ils ont joué.
Tout d'abord, le nom du quatuor, un peu étonnant, quatuor EAD. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est comme dans les beaux EAD. C'est un peu comme
ça. Oui, c'est un jeu de mots.
Très bien. Alors donc, il y avait deux violonistes, évidemment, qui sont Vitali Raskasov et Alexandre Dalbigo. Voilà les deux violonistes. Et puis Laura Esminger, qui est l'altiste, et Benoît Chapeau, le violoncelliste. Des gens qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble au sein de l'orchestre, évidemment. Et donc, ils ont un besoin, on peut dire viscéral, de faire de la musique de chambre entre eux. Et il est certain que leur pratique de l'orchestre les sert dans la musique de chambre et réciproquement. La pratique de la musique de chambre, je suis sûr, les sert dans l'orchestre. Donc, ils ont donné un concert avec trois œuvres très exigeantes. Vraiment. Alors la première, c'était le quatuor à cordes Quartet Satz de Schubert, ce fameux quatuor à cordes qui était en fait un mouvement prévu pour un quatuor complet, mais on connaît Schubert et son aptitude à l'inachèvement, hein. Il ne l'a jamais achevé. Et donc là, c'était ce quatuor en do mineur, un drame complet, hein. C'est vraiment une œuvre terrible avec ces espèces de débuts, comme les qualifiaient Jean et Brigitte Massin, le tragique est présent partout, notamment dans la lutte mineure initiale, et c'est le cas. Et ils l'ont joué à la fois en équilibrant parfaitement les voix, on entendait tout, y compris le moindre pizzicato du violoncelle, ce qui est important, et puis avec une sorte de, je dirais, de violence maîtrisée. Et ça, c'était vraiment beau et intéressant. Alors ça, c'était la première partie. Et ensuite, ils ont joué la Grande Fugue en si bémol majeur de Ludwig van Beethoven. Alors, cette Grande Fugue, elle a aussi une histoire. En fait, c'était le quatrième mouvement du 13e quatuor. Et puis, c'était tellement développé que le public n'a pas vraiment adhéré. Et donc, il a dû le retirer, en composer un autre final, beaucoup plus léger. Et donc, il a gardé cette Grande Fugue indépendante du quatuor. Et là, c'est vraiment un déchaînement incroyable, hein, avec une structure d'une complexité, d'une exigence qui vraiment demande aux musiciens un effort particulier pour la mise en place. Et là, c'était vraiment très très bien, parce que c'était en même temps clair et fougueux, avec ces échanges douloureux de temps en temps. Il y a cette alternance entre la violence et puis la douleur. Ça aussi, ça a été vraiment du grand Beethoven. Donc voilà pour cette deuxième œuvre. Et la troisième, alors la troisième était vraiment la moins connue des trois, puisqu'il s'agissait du quatuor opus 44 numéro 1 de Félix Mendelssohn. On ne joue pas souvent la musique de chambre de Mendelssohn.
Non.
On joue plus souvent ses symphonies, hein. D'ailleurs toujours les mêmes, l'italienne surtout.
Son octuore quand même.
L'octuore, oui, 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 également. Et donc là, un quatuor en quatre mouvements, qui est là aussi une œuvre très complexe. Hein. À l'écoute, j'avoue que je n'étais pas du tout familier avec cette œuvre, on découvre la complexité d'une structure, d'une
écriture. Très, très dense. Hein,
ouais. Incroyable. Avec notamment le premier mouvement Molto Allegro Vivace, qui est une sorte d'élan vigoureux, mais en même temps, la jeunesse transparaît là-dedans. C'est ce qu'ont souligné les interprètes. Et puis, les deux mouvements centraux, le Menuetto et l'Andante, là, c'est beaucoup plus genre balade lyrique, idylle en quelque sorte, donc plus léger. Et puis le final, un presto con brio, alors là, ça repart très,
oui,
très vigoureusement, mais joyeusement, avec une sorte de lyrisme joyeux, qu'on peut dire, et intense. Et donc, vraiment, ils ont eu un grand succès. Il faut dire que la chapelle était pleine.
Oui, c'était plein.
Absolument plein, ce qui fait plaisir.
Y compris sur les côtés.
Mais oui, le public musical de Toulouse est un public assidu. Hein.
Et donc, oui, et puis les Clés de Saint-Pierre ont leur public. De
toute ah oui, façon. Déjà, oui, oui, absolument. Et donc, ils ont été applaudis, rappelés. Alors, ils sont revenus, ils ont donné quelque chose qui n'était pas vraiment un bis, puisqu'ils ont repris le Schubert initial avec cette tension presque supplémentaire qu'ils y ont ajouté.
Et pour le plus grand plaisir du public.
Et le plus grand plaisir du public, évidemment. Alors, c'était le premier concert dit hors les murs,
oui,
des Clés de Saint-Pierre. Et puis ensuite, il y aura les concerts, disons, habituels de l'auditorium lui-même.
On les a annoncés la semaine dernière, effectivement. Il y aura 6 concerts cette année, dont 2 hors, voilà, de leur fief de Saint-Pierre-des-Cuisines.
Voilà, exactement, avec un second un peu particulier dont on a parlé la semaine dernière.
Pour vous donner un aperçu du programme de ce concert du 23 septembre, eh bien justement, j'ai choisi un extrait du quatuor numéro 3 en ré majeur opus 44 numéro 1 de Mendelssohn avec son très beau quatrième mouvement Presto con brio. Extrait du quatrième mouvement Presto con brio du quatuor numéro 3 en ré majeur opus 44 numéro 1 de Mendelssohn. C'était donc l'une des trois œuvres au programme du concert des Clés de Saint-Pierre, lundi à la chapelle des Carmélites. Notez que le prochain concert des Clés est programmé dimanche 6 octobre à 11h à la salle Altigone de Saint-Orens de Gameville. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et on se retrouve avec Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec mes invités Serge Chosy et Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur artistique des Passions, l'orchestre baroque de Montauban. Jean-Marc est donc également le fondateur et directeur artistique du festival Passion Baroque, dont la 10e édition a lieu du 27 septembre au 6 octobre à Montauban et dans d'autres lieux du Tarn-et-Garonne. Particularité cette année, Jean-Marc, il n'y a pas de thématique générale, contrairement aux éditions précédentes. La thématique, finalement, c'est qu'il s'agit du 10e anniversaire du festival et qu'évidemment, ça se fête et il faut marquer le coup.
Tout à fait. 10 ans, ça se fête. Je me suis dit, bon, on va pas se limiter à un thème qui est un peu trop... je sais pas si
le ça enferme.
Réducteur, un peu, voilà. Ça nous laisse plus de liberté. Le champ plus libre à inviter qui on veut avec les œuvres qu'on veut. Et finalement, ça marche aussi bien. Hein. Voilà, un thème, quelquefois, c'est un peu trop contraignant.
Pour les lieux, un petit rappel aussi. Donc, le centre, c'est un peu le théâtre L'Âme de Gouges à Montauban. Mais il y a aussi d'autres lieux du patrimoine tarn-et-garonnais et montalbanais.
Tout à fait. Là, en fait, le but, c'est aussi de mettre en valeur le patrimoine. Deux abbayes, deux magnifiques abbayes en Tarn-et-Garonne, Beaulieu en Rouergue et puis l'abbaye de Belle-Perche. Deux abbayes qui nous accueillent depuis quelques années déjà et qui nous permettent aussi d'investir des lieux magnifiques, notamment Beaulieu en Rouergue, qui est une exposition d'art contemporain restauré par le ministère de la Culture. C'est vraiment un des hauts lieux culturels de notre région.
Oui, vraiment, c'est un lieu vraiment splendide avec un parc superbe. Alors, il y aura aussi des concerts cette année à l'église Saint-Jacques à Montauban. Ça sera le concert d'ouverture, on va en parler dans quelques instants. Oui. Et puis un aussi à l'église de Gibignargues. C'est sur la commune de Puy-Cornet, c'est ça?
Oui, c'est une petite commune près de Montauban, vers Molière. Et cette petite commune a la bonne idée de nous inviter, d'offrir le concert à ses habitants, mais à tous les gens qui veulent venir. Une petite église qui nous accueille depuis quelques années. On a évidemment, vous imaginez, un énorme plaisir à venir faire entendre la musique en milieu rural.
Alors, le concert d'ouverture vendredi 27 septembre a lieu à 20h30 à l'église Saint-Jacques de Montauban. On y retrouve bien sûr votre orchestre des Passions, mais aussi le chœur Dulci Jubilo, constitué de jeunes chanteurs dirigés par Christopher Gibert, le fondateur de l'ensemble. Et puis il va y avoir quatre chanteurs solistes, dont plusieurs sont des compagnons de route des Passions depuis longtemps. Je vais vous laisser présenter tous ces artistes et le programme que vous allez donner avec eux le 27, donc à l'église Saint-Jacques.
Oui, donc le programme est dédié à Jean Gilles. C'est un programme que nous reprenons, puisque nous l'avons enregistré en 2008 à l'époque avec les éléments. Et donc, j'ai eu à cœur de retrouver ce compositeur emblématique qui nous a porté bonheur, on va dire. Donc, Requiem et Lamentation, en collaboration, comme vous l'avez dit, avec Dulci Jubilo. Les solistes Anne Maguette, donc notre soprano habituelle, a des problèmes de santé. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse être là au concert. Elle sera évidemment remplacée par quelqu'un une jeune chanteuse talentueuse dont je ne cite pas le nom, parce que si Anne peut venir, bon.
Pour l'instant, c'est Anne Maguette qui doit chanter.
Voilà. Bastien Rimondi, haute contre, qui a été élève de Michel Volkovitsky à Sylvanès et qui a fait une carrière magnifique, notamment au Centre Musique Baroque de Versailles. Donc, il est, je crois, aussi dans les chœurs des arts florissants. Bastien Rimondi, haute contre.
Magnifique voix, Bastien Rimondi. Hein.
Oui, très
magnifique,
belle voix.
Vraiment.
Notre ami François-Nicolas Gélot, donc habituel aussi, qui tenait le rôle de Daphnis dans l'opéra de Mondonville, dont François-Nicolas Gélot qui chantera ténor, et Pierre-Yves Cras, qui est une basse, un élève du Conservatoire supérieur de Paris, qui est originaire de Montauban, Pierre-Yves, et qui donc assurera la partie de basse. On a de très très bons solistes, et je rappelle encore la présence du chœur Dulci Jubilo, dirigé par mon ami Christopher Gibert.
Qui lui-même enseigne au Conservatoire départemental de Montauban.
Voilà.
Et qui est originaire de Rocamadour.
Professeur de chant rural.
Voilà, oui, Dulcie Jubilo, c'est essentiellement d'anciens élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse.
Oui, 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 il y a beaucoup de jeunes chanteurs, de jeunes chanteurs très, très, très talentueux de la région. C'est un chœur formidable, vraiment, qui est sur la pente ascendante, vous avez entendu, hein,
oui,
certainement.
Oui, oui, oui.
Et je dirigerai en première partie les Lamentations de Jean-Gilles, et c'est Christopher qui dirigera le Requiem.
La messe de Requiem du même Jean-Gilles qui est mort à Toulouse hein, en 1705.
En 1705, oui.
Dont le Requiem a connu son heure de gloire au XVIIIe siècle.
Tout le XVIIIe siècle, c'était le modèle, c'était le Requiem. Et d'ailleurs, il fallait se faire enterrer avec ce Requiem à l'époque.
Rameau,
Louis
XV, Louis XV.
Et Nicolas Leszinska, le roi de Pologne.
Voilà, c'est donc, pour vous dire à quel point cette œuvre était célèbre à l'époque. Stanislas, et Jean-Gilles aussi, bien sûr.
Oui, Stanislas, pardon, je cherchais le prénom. Oui, c'était une œuvre extrêmement réputée et qui passait pour être le plus beau Requiem de tous.
Nous allons écouter un petit extrait de ce magnifique Requiem de Jean-Gilles. Il s'agit du Kyrie dans la version enregistrée en 2008 par les Passions de Montauban. Le Kyrie du Requiem de Jean-Gilles, dans la version enregistrée en 2008 par les Passions de Montauban, une des deux œuvres au programme du concert d'ouverture de Passion Baroque 2024 à l'église Saint-Jacques de Montauban, le vendredi 27 septembre à 20h30, deuxième concert de cette 10e édition, le lendemain, le samedi 28, toujours à 20h30 et toujours à Montauban, mais au théâtre Olympe de Gouges, où vous avez invité l'ensemble Café Zimmermann pour une soirée sous-titrée à un concert au café de Monsieur Zimmermann. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qui était ce Monsieur Zimmermann? Ensuite, vous nous présenterez les musiciens et le programme qu'ils vont jouer samedi au théâtre Olympe de Gouges.
J'ai appris récemment que Zimmermann, c'était le nom de Bob Dylan. Alors, c'est pas lui.
Mais c'est pas Robert. C'est pas Robert Zimmermann.
Non, ça n'est pas lui. C'était un monsieur qui avait un café à Leipzig du temps de Jean-Sébastien Bach. Et la tradition, à l'époque, voulait que dans les cafés, il y avait des orchestres qui se produisaient ou des chanteurs. Et on donnait des concerts pendant que les gens venaient boire une bière ou boire un café. Et ce fameux Zimmermann a accueilli effectivement la plupart des œuvres profanes de Jean-Sébastien Bach.
Et de ses fils.
Et de ses fils, effectivement. Donc cet ensemble-là qui est connu, quand je dis nationalement, non, c'est internationalement, c'est un des meilleurs ensembles baroques français qui fait une carrière magnifique. Et donc c'est quatre artistes donc, de cette formation-là qui viendront donner ce concert consacré à la musique de chambre contemporaine de Bach avec des œuvres de Bach, des œuvres de Telemann, on va entendre des extraits de Tafelmusik de Telemann et puis des œuvres d'un des fils de Jean-Sébastien Bach, qui n'est autre que Carl Philipp Emanuel, le deuxième fils.
Certainement le plus connu. Hein.
Qui est le plus connu et qui a écrit aussi beaucoup d'œuvres de musique de chambre formidables.
Qui est un compositeur génial aussi. Hein. Bon, malheureusement pour lui, il était... Et le fils de Jean-Sébastien.
Et c'était pas facile.
On le redécouvre quand
même. En tout cas, Carl Philipp.
Il a fait une belle carrière. À
on lui doit la création, puisqu'on va peut-être faire un petit peu de musicologie. C'est lui qui a été le premier à l'invention du bithématisme, qui a écrit des œuvres avec un thème masculin, un thème féminin qui se répondent avec cette dualité entre deux thèmes opposés et qui est en fait la naissance du style classique avec Mozart. D'ailleurs, Carl Philipp a été professeur de Mozart. Hein.
Oui. Il était le fils de Jean-Sébastien Bach, il était le filleul de Telemann.
Oui, d'ailleurs, car Philippe Emmanuel, Philippe vient de Georges-Philippe Telemann.
Telemann, voilà, vous vous rendez compte. Bon, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de se dire qu'on pouvait être à l'époque en train de boire une bière ou boire un café, je ne sais pas, au café de M. Timmermann, et d'un seul coup, il y a Jean-Sébastien Bach qui arrivait, vous voyez, qui s'asseyait au clavecin, qui jouait. Essayez d'imaginer la chose. Sauf qu'il n'était pas si connu que ça à l'époque. Aujourd'hui, on voit ça avec notre œil, mais à l'époque, pour les gens du coin, c'était pas forcément...
Il était beaucoup moins connu que Telemann, en tout cas.
Mais même que l'aura été son fils. Carl Philipp était très connu à l'époque.
Carl Philipp était très connu à...
Très respecté, très admiré. Très admiré.
À la cour de Frédéric II à Potsdam et à Hambourg aussi, il a fait une grande carrière.
Café Timmermann, c'est la formation fondée par Céline Frisch, la claveciniste,
oui.
Qui a enseigné à Montauban.
Elle a été professeure de clavecin à Montauban.
Ça,
c'est chouette, elle habitait à Toulouse à l'époque et effectivement, je l'avais recrutée comme professeure de clavecin. C'est elle qui a ouvert la classe. Combien de temps elle a enseigné? 3-4 ans.
Et puis après, il a du flair, ce Jean-Marc Andrieux. Hein, Alors, je ne sais pas si elle est au programme du concert de samedi, mais voici la célèbre Badinerie de la suite numéro 2 BWV 1067 de Jean-Sébastien Bach, dans une version enregistrée par l'ensemble Café Timmermann avec le flûtiste Karel Walter. La Badinerie, septième pièce de la suite numéro 2 BWV 1067 de Jean-Sébastien Bach dans une version enregistrée par l'ensemble Café Zimmermann avec le flûtiste Karel Walter. Vous allez donc retrouver les mêmes, y compris ce flûtiste, lors du concert du samedi 28 septembre à 20h30. C'est au théâtre Olympe de Gouges. Précisons qu'à 18h30, au même endroit, il y a une avant-scène avec vous, Jean-Marc Andrieux et Céline Frisch. De quoi allez-vous y parler?
Et Pablo Valetti aussi, le violoniste. En fait, c'est un échange avec le public. D'abord, entre les artistes invités et moi-même, on dialogue un peu. Je leur pose quelques petites questions pour amorcer le dialogue. Et ensuite, les gens peuvent poser des questions. Comment vous faites pour répéter? Comment vous choisissez les œuvres? Quelle est la difficulté? Comment ça se passe? Enfin, on rentre un peu dans la cuisine de l'orchestre et c'est toujours un moment que les gens apprécient beaucoup. Et ça prépare à écouter différemment le concert après.
Le lendemain, dimanche 29 septembre, concert à 15h à la belle abbaye de Beaulieu-en-Rouergue dont nous parlions il y a quelques minutes. Vous y avez programmé une formation en résidence dans notre région, dans le Gers très précisément.
À la Romieux.
Voilà, l'ensemble vocal La Main Harmonique, il présente un programme intitulé « Sortilège » que vont chanter ces jeteurs de sorts.
Voilà, donc Frédéric Bétous, donc, qui a créé cet ensemble, est un ami depuis longtemps, chanteur lui-même, au contraire. Et en fait, ils vont venir à 5 chanteurs faire entendre un mélange de musique de la fin de la Renaissance, du début du baroque, cette période charnière autour de 1600, avec notamment Monteverdi, un des grands génies de l'histoire de la musique, avec des compositrices contemporaines. Parce qu'en fait, nous souhaitons aussi, même si c'est un festival de musique baroque ou ancienne, promouvoir aussi notre musique de notre
musique
temps.
Qui se propose aujourd'hui.
Et quand un ensemble me propose des programmes qui mélangent les deux, c'est déjà arrivé, je suis très heureux de pouvoir mettre en valeur des compositeurs vivants, et notamment ces deux compositrices pour l'occasion, Violeta Cruz et Caroline Marceau. Ce sont deux jeunes compositrices de très très grand talent. Donc on va avoir un aller-retour entre la musique ancienne et la musique de notre temps, très heureux.
Mais à chaque fois c'est du chant polyphonique, enfin, c'est ça la
oui,
marque, si on peut
oui,
dire.
Oui, hein. Oui, c'est écrit pour 5 voix, Nadia Lavoyer, Judith de Rouen, Fabrice Foison, David Vitchak et Frédéric Bétous, voilà, 5 voix. Et on va entendre aussi des œuvres de Pascal de Lestocart.
J'adore ce nom. Pascal, compositeur français du XVIe siècle.
Voilà, avec des œuvres. C'était un compositeur énigmatique qui a écrit des œuvres avec des hardiesses harmoniques incroyables pour l'époque. Et qui était, je pense, si je ne me trompe pas, qui était un huguenot.
Tout voilà. S'explique. Oh. Il y aura aussi du John Dowland, du Monteverdi, vous l'avez dit. Au programme de ce concert Sortilège, il y a donc des œuvres de Pascal de Lestocart, ce compositeur du XVIe siècle, dont voici la pièce intitulée « Mondain, si tu le sais », chantée par l'ensemble à main harmonique. Mondain, si tu le sais, pièce composée par Pascal de Lestocart et chantée ici par l'ensemble La Main Harmonique. Donc La Main Harmonique se produit avec son programme Sortilège ce dimanche 29 septembre à 15h à l'abbaye de Beaulieu-en-Wergue. Et puis le même jour à 17h30 à l'église de Gibignargues à Puy-Cornet, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a un événement intitulé Bars en scène proposé par la soprano Amandine Bontemps qui accompagne la violoncelliste Marouane Chant et le théorbiste Léo Brunet. Une proposition reprise le jeudi 3 octobre à 18h30 et 19h45 au musée Ingres Bourdelle à Montauban. Qu'est-ce que c'est que ces bars en scène, Jean-Marc ?
Ah, c'est une collaboration avec nos amis de la SMAC, Salle de musique amplifiée, du Rio. Le Rio. Et ils organisent cette journée, c'est le jeudi 3 octobre, bar en scène. Et on s'est dit, ben, on va faire quelque chose ensemble. Donc, il n'y aura pas de guitare électrique, hein, ce n'est pas le but. Le but, c'est de mutualiser notre communication, et donc on rentre dans la programmation de Bar en Scène. C'est un événement qui fait jouer les musiciens dans les bars ou dans des lieux originaux. Voilà. Et là, du coup, on a fait rentrer notre concert au Musée Ingres dans cette programmation. Donc, je remercie les amis du Rio. Merci Patrick.
Et le concert, le programme, est intitulé Barbara, mais avec un S. Alors, je ne sais pas s'il faut dire Barbaras.
Oui,
en fait,
oui.
C'est lié au prénom des deux compositrices qui vont être au programme ce jour-là. Enfin, Barbara la chanteuse, ce n'était pas son vrai prénom. Hein. Donc, on aura Barbara Strozzi et Barbara.
Et oui, les deux Barbara.
La chanteuse de l'Aigle Noir.
Il ne manque plus que Barbara Streisand, on l'a dit. Mais bon, ce sera pour une autre fois.
Une idée.
En tout cas, ces deux... Amandine Bontemps est une jeune chanteuse qui a un tel talent qu'elle est capable de passer de l'une à l'autre de façon stupéfiante. Quoi. J'admire vraiment cette jeune chanteuse qui a travaillé d'ailleurs à Montauban, mais je crois que maintenant elle fait une carrière dans la région parisienne. Et je l'ai invitée pour venir nous présenter ce programme avec un violoncelle et un théorbe où elle va faire entendre Barbara Strozzi, donc, qui est une chanteuse
compositrice vénitienne.
Vénitienne, donc du début du 17e. Voilà. Et Barbara qui sera en miroir avec notre Barbara. National.
Alors voilà, on peut se demander comme ça à quoi ça peut ressembler.
Eh bien, justement, si on se le demande, on vient écouter.
Alors, je vais quand même donner un petit aperçu pour qu'on se fasse une idée de ce à quoi peut ressembler ce programme Barbaras d'Amandine Bontemps. Voici comment elle enchaîne, par exemple, Che si può fare de Barbara Strozzi et la chanson Le soleil noir de notre Barbara National. Amandine Bontemps, accompagnée par la violoncelliste Marouane Chant et le théorbiste Léo Brunet, chantait « Che si può fare » de Barbara Strozzi et la chanson « Le soleil noir » de Barbara, un extrait du programme Barbara qu'elle donne donc dimanche 29 septembre à 17h30 à l'église de Gibignargues à Puy-Cornet, puis le jeudi 3 octobre à 18h30 et 19h45 au musée Ingres-Bourdelle de Montauban. Concert de clôture de l'édition 2024 de Passion Baroque, dimanche 6 octobre à 15h et 17h30. Il y a deux concerts aussi, et ce sera à l'abbaye de Belle-Perche, sur la commune de Corde-Tolosane. Il est donné par l'orchestre Les Passions, et le concert est sous-titré « Les musiciens de la chambre du roi ». Pourquoi les musiciens de la chambre du roi ?
Parce que le roi, dans sa chambre, avait des musiciens. à Versailles.
Pas des musiciennes, des musiciens.
Ben oui, 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 je pense. Si, il devait y avoir des chanteuses quand même.
Ah bon.
Il devait y avoir des chanteuses qui venaient se produire dans les appartements de Versailles. Mais donc, je voudrais rendre hommage aux compositeurs importants de la musique française baroque, qui ne sont pas assez joués, je trouve. François Couperin, un des génies de la musique française, bien sûr, vous le connaissez.
On le redécouvre beaucoup quand même depuis quelques temps, notamment son œuvre pour clavier.
Oui, tout à fait. Il a une œuvre pour clavecin qui est formidable et qu'on découvre, même que les pianistes...
Christian Zacharias joue à piano jacobin. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Et en plus, il avait enchaîné Couperin et Francis Poulenc. Et ça marchait très bien.
Et la preuve, bien sûr, ça marche. On connaît par exemple les Barricades mystérieuses.
Ah oui, bah ça, piano, il a joué, ça c'est obligatoire, c'est une merveille.
Et en plus, ça marche parce qu'il y a une technique du clavecin que Couperin conseille dans son art de toucher le clavecin, c'est ce qu'on appelle le jeu luthé. Alors pour imiter la sonorité du luth, parce que la note continue de résonner, on ne l'étouffe pas. Et au clavecin, il conseillait de garder le doigt sur la touche, même pendant qu'on jouait la note suivante. Et ça mélangeait un petit peu les notes pour donner cette illusion de sonorité du luth, notamment dans les Barricades mystérieuses, ce jeu luthé de Couperin. Donc on va faire entendre des œuvres, les concerts royaux de Couperin, le 3e et le 8e concert royal, qui étaient joués devant Louis XIV, évidemment, et que Couperin a compilé à la fin de sa vie en 1733.
Alors, il devait venir Louis XIV, mais il s'est décommandé, finalement, vous m'avez dit.
Ben, il a un petit problème, il a une fistule, là, et il va se faire opérer, et puis on le verra plus
oui,
tard.
Oui, Lully est en train d'écrire une œuvre, d'ailleurs, là-dessus, pour le demander une action de grâce pour guérir le roi.
Et cette œuvre-là, c'est devenu...
Oui, dites-le.
God Save the Queen.
Voilà.
Ça vient de l'opération de la fistule de Louis XIV.
Le nom, c'était Hymne d'action de grâce pour l'heureuse guérison de la fistule du roi.
Voilà. Qui est devenu le God Save the King.
Et donc, Handel en a fait le God Save the King.
Voilà. Alors, donc, revenons à nos
moutons. À nos moutons,
si on peut dire. Voilà. Et donc, on va entendre aussi Marais. Alors là aussi, il est connu, hein, bien sûr, Serge. Marais avec tous les matins du monde.
C'est Jordi Savall et le film Tous les matins du monde.
Ça a permis de redécouvrir là aussi un génie de la viole de gambe, notamment. Oui, on entendra aussi Étienne Mango qui jouera deux pièces en solo pour viole de gambe. Ce sont des pièces aussi de Marais, à suite à De Dessus, que Louis XIV a certainement entendu. Et puis, Louis XV, on va changer de génération et entendre les pièces en concert pour clavecin de Rameau qui était aussi joué devant Louis XV. Là, formidable aussi, des œuvres magnifiques.
La grande et belle musique baroque française. Et pour illustrer ce programme du concert de clôture du dimanche 16 octobre, on va écouter une suite de danse composée par Jean-Philippe Rameau. Ce n'est pas forcément des œuvres qui seront au programme de ce concert. Enfin, on va les écouter jouer en fondu enchaîné par les Passions de Montauban sous la direction de Jean-Marc Andrieux.
Thank you.
une suite de danse de Jean-Philippe Rameau interprétée par les Passions de Montauban qui donne donc le concert de clôture de l'édition 2024 de Passions Baroques dimanche 6 octobre à 15h puis à 17h30 à l'abbaye de Belle-Perche. Alors Jean-Marc, il y a aussi des événements en marge du festival. On peut peut-être en signaler quelques-uns. Donc il y aura évidemment une séance pour les scolaires notamment.
Oui, il y aura des animations pour les enfants des écoles. On y tient beaucoup. Les artistes ont beaucoup beaucoup de plaisir à présenter leur musique, leur travail, leur instrument aux enfants qui eux aussi sont très très captivés par ces présentations.
Il y aura des masterclass, des
masterclass au Conservatoire Montauban aussi, atelier puis une exposition de costumes.
Alors ça.
De la compagnie de danse Sophie Carlin. Costume sur...
À la Maison du Crieur.
À la Maison du Crieur. Là aussi, si vous venez à Montauban, il faut visiter la Place Nationale qui a été restaurée. C'est vraiment un joyau architectural. Et dans un coin, il y a cette fameuse Maison du Crieur qui accueille des expositions.
Voilà, l'exposition est à voir du samedi 5 au samedi 26 octobre à la Maison du Crieur. Voilà pour Passion Baroque 2024. Serge Chauzy, il nous reste quelques annonces à faire avant de conclure cette émission. Bon, j'ai indiqué en introduction que les 9 représentations de Nabucco du 24 septembre au 8 octobre affichaient complet à l'Opéra National du Capitole. Idem pour le concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 28 septembre. On peut indiquer tout de même les œuvres de ce programme qui va donc être dirigé par Tarmo Peltokoski.
Et le programme, c'est tout d'abord le prélude de Tristan et Isolde de Wagner et puis la fameuse deuxième symphonie Résurrection de Gustav Mahler qui donc nécessite deux cantatrices, effectivement, une soprano et une mezzo, et un grand chœur. Donc voilà les deux œuvres qui sont au programme de ce premier concert. C'est le concert d'ouverture de la saison, dirigé par Tarmo Peltokoski, qui cette année est le directeur musical. Désigné.
Voilà. Désigné, il faut être précis dans les expressions qu'on emploie. On va écouter un petit extrait de la très belle symphonie numéro 2, Résurrection de Gustav Mahler, dans une version dirigée ici par Tugan Sokiev. Voilà donc extrait de la symphonie numéro 2, Résurrection de Gustav Mahler dans une version dirigée par Tugan Sokiev. Et puis pour finir, signalons une proposition originale et insolite à Audi-Sud par l'ensemble À bout de souffle, vendredi à 19h et samedi à 11h30 et 19h, un spectacle inspiré de l'élixir d'amour de Donizetti mêlé de chansons populaires et traditionnelles italiennes. Dans une version très particulière et gratuite, Serge. Ça s'appelle Elixir Pagaille Vocale all'Italiana, à l'italienne.
C'est intéressant. On connaît À bout de souffle, hein, ils sont habitués avec Stéphane Delincac d'imaginer des concerts particuliers. C'est toujours très, très spirituel, ah, très amusant.
C'est très mis en scène aussi.
Très bien mis en scène.
Oui, alors il présente ça comme un opéra de rue immersif et participatif. Alors est-ce que ça veut dire que le public va être un petit peu entraîné dans la farandole? Je ne sais pas. Voilà, donc ça sera dans le hall d'Audi Sud. Et ils font ça toujours dans des lieux un peu singuliers. Et c'est gratuit, donc tous ceux qui veulent éventuellement non seulement y assister, mais peut-être y participer. Voilà, le public sera immergé dans l'action. Et je pense qu'en fait, les chanteurs, les comédiens, parce que ça relève à la fois du théâtre et de l'opéra et du chant, viendront un peu s'adresser à eux. Et pour vous mettre dans l'ambiance, eh bien voici un extrait d'Elixir Pagaille Vocale à l'Italiana, le spectacle musical de l'ensemble À bout de souffle. Petit extrait d'Elixir Pagaille Vocale à l'Italiana est donc présenté à Audisud par l'ensemble À bout de souffle le vendredi 27 septembre à 19h et le samedi 28 à 11h30 et 19h. C'est gratuit, mais sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. S'il en reste encore au moment où je vous parle, il faut vous dépêcher de vous inscrire si vous voulez y aller sur le site www.audisud.com afin d'y assister. Je rappelle que le festival Passion Baroque 2024 se tient du 27 septembre au 6 octobre à Montauban et dans divers lieux du Tarn-et-Garonne. Le détail de la programmation est consultable sur le site www.les-passions.fr et la billetterie est en ligne à l'adresse www.passionbaroque.festic.net. Je rappelle également que le festival Piano Jacobin se poursuit jusqu'au 30 septembre et que vous pouvez vous renseigner, réserver et acheter vos places en ligne en vous connectant à l'adresse www.pianojacobin.com. Les représentations de Nabucco affichent complet à l'Opéra National du Capitole du 24 septembre au 8 octobre, de même que le concert de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 28 à 20h à la Halle aux Grains, mais vous pouvez tout de même vous renseigner et tenter votre chance sur les sites www.opéra.toulouse.fr et www.onct.toulouse.fr au cas où des places se libéreraient. Merci infiniment à Serge Chosy qui a co-animé cette émission avec moi et à Jean-Marc Andrieux qui a été notre invité d'honneur, notre brillant invité d'honneur. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci à tous nos auditeurs de leur fidélité. Excellente semaine musicale.